Bonjour, la rentrée de janvier est bouillante pour le gouvernement. Le projet de réforme des retraites présenté par Elisabeth Borne provoque, et c'est une première depuis 12 ans, un front syndical uni. Alors la principale mesure de cette réforme, c'est de relever l'âge légal de départ en retraite à 64 ans au lieu des 62 actuels. Repoussé à cause des gilets jaunes, repoussé à cause du Covid, repoussé à cause des fêtes de fin d'année. Cette fois, la réforme est bien là avec son cortège de débats sur les chaînes d'infos, plus ou moins bien informés, mais surtout moins. Au cœur des débats, il y a le fameux rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, à qui l'on fait dire à peu près tout et n'importe quoi, que l'on soit opposant à la réforme ou qu'on la soutienne. À en croire les chaînes d'infos, relever l'âge de départ à la retraite est une nécessité pour sauver le système. Est-il impossible d'entendre une autre parole, un autre son de cloche sur les plateaux? Pourquoi les éditorialistes sont-ils en ordre de bataille pour faire avaler la pilule d'une réforme hautement impopulaire? Alors, l'éditocratie en ordre de bataille, la formule, elle est de vous. Pauline Pernaud, bonjour. Vous êtes journaliste, membre de la rédaction d'Acrimed, l'Observatoire des médias, que nos abonnés connaissent bien. Et on va beaucoup parler de votre travail aujourd'hui, puisque depuis janvier, vous observez avec attention le traitement médiatique de cette réforme. À côté de vous, Anaïs Engel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en économie, maîtresse de conférences à l'université Rennes 2. Et en 2019, vous avez publié un guide d'autodéfense contre les idées reçues sur la réforme des retraites. Alors la réforme a changé depuis, c'est plus le même projet. Mais on s'est rendu compte que ces fameuses idées reçues, elles étaient toujours utilisées, toujours les mêmes. Et d'ailleurs, on va peut-être en parler juste après, à côté de vous. Samuel Gontier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste chez Télérama, vous êtes déjà venu chez Arrêt sur Image, nos abonnés vous connaissent peut-être aussi, et vous passez votre vie au poste, c'est le nom de votre chronique dans Télérama. On peut dire que rien ce qui se passe sur les chaînes d'info vous échappe?
Presque rien.
Presque rien, ok. Alors justement, on va commencer avec ce guide d'autodéfense, Anaïs Engel, que vous avez publié en 2019, 12 idées reçues à combattre sur les retraites. En 2019, qu'est-ce qui vous a motivé à publier ce guide d'autodéfense?
Alors à l'époque, on était à la première version de la réforme, on peut même l'appeler la contre-réforme menée par Emmanuel Macron. À l'époque, ce qui m'a motivée, c'est qu'il y avait beaucoup justement d'idées reçues qui passaient sur les plateaux télé en continu ou même qu'on pouvait entendre en parlant avec ses amis, avec sa famille, etc., qui sont extrêmement puissantes et qui structurent un peu un agenda de pensée libéral pour justement... promouvoir la casse du système social français. Donc je me suis dit qu'il fallait effectivement donner un peu à tout un chacun et toute une chacune les codes un peu pour essayer de répondre. Parce que souvent on est dans un débat et puis on n'a pas les bons, on n'a évidemment pas toujours les bons arguments au bon moment. Bon, je me suis dit que ça pourrait peut-être aider un peu à faire face. Et puis, effectivement, ces arguments libéraux, ils se retrouvent encore aujourd'hui en 2023 pour la version 2 de cette contre-réforme des retraites.
Pauline Pernaud, les arguments libéraux, ils ont libre cours depuis quelques semaines sur tous les plateaux?
Oui, quelques semaines, vous êtes plutôt sympa. Ça fait quelques décennies, 40 ans. Non, mais ça fait partie du sujet. Et quand on parle de pluralisme, je pense que c'est un des trucs les premiers à dire, c'est que on a un journalisme économique à l'agenda libéral qui est absolument hégémonique en fait, au moment quand une contre-réforme se met en place, en particulier quand il y a une mobilisation derrière, en fait, ressort de manière complètement exacerbée. C'est pour ça qu'à Acrimed, on a tendance à vraiment scruter ces moments, parce que pour nous, ils font partie de ces moments au même titre qu'une élection présidentielle, qui constituent une sorte de loupe grossissante en fait, sur des pratiques qui, par ailleurs, sont totalement ordinaires. Le monopole libéral dans le journalisme économique et l'encadrement de l'information sociale et économique à la fois dans la presse et particulièrement sur l'audiovisuel, ressort de manière tout à fait spectaculaire, quoi.
Alors, dans ce guide, l'argument 2, l'idée reçue numéro 2, c'était « le système n'est pas viable financièrement, il faut réformer ». C'est un argument qu'on entend tous les jours, depuis quelques semaines.
quand Emmanuel Macron dit « si nous ne faisons pas de réforme des retraites, si nous ne travaillons pas plus longtemps, c'est tout le système français des retraites par répartition qui se trouve menacé », a-t-il raison, selon vous, Jean-Marc Daniel ?
Oui, je crois qu'il a raison, il a raison à trois niveaux.
L'objectif premier, c'est de préserver notre système de retraite par répartition. Moi, j'ai des enfants, j'ai pas envie de devoir leur dire demain que finalement, ils vont devoir épargner un petit peu pour se constituer un patrimoine pour leur retraite.
Notre responsabilité, c'est d'assurer l'avenir de nos enfants. Et aujourd'hui, c'est un mensonge de dire que le régime de retraite pourrait continuer sans qu'on ne change rien. Parce que si on fait ça, eh bien, dans 10 ans, dans 15 ans, on aura des retraités qui verront leur pension baisser. Et baisser dans 10 ans de 25%.
Nous avons déjà, sans leur consentement, engagé nos enfants et nos petits-enfants avec notre dette. Et donc, il serait particulièrement injuste de ne pas leur laisser ce qui est la vache sacrée du modèle social français, la retraite. Est-ce que les retraités de demain seront aussi bien traités ? Je pense qu'on leur doit ça. Et parce qu'on leur doit ça, il me semble qu'il faut faire cette réforme à minima.
Je commence avec vous, Philippe Manière. Est-ce que c'est impératif de réformer les retraites ?
Ah bah oui, enfin, bon. C'est une question.
Ça fait.
La question, elle est vite répondue. Non, c'est un problème de règle de trois. C'est un problème de, je sais pas quoi, de vase communicant. Enfin, c'est un problème arithmétique. Donc, c'est pas une question d'opinion.
150 milliards de déficit en 10 ans si on ne réforme pas. Ça, j'insiste là-dessus parce que j'entends parfois certains opposants à la réforme, notamment à l'extrême droite, nier ce principe de base qui est que si on ne fait pas de réforme, c'est le risque de faillite pour notre système de retraite.
Anaïs Engel, la question elle est vite répondue. Il faut absolument réformer ce système de retraite.
Bah écoutez, je sais même pas trop quoi répondre. Autant le montage est aberrant. Là on a un peu tout, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'argument libéral classique du chantage à la dette, où on va vous dire, le problème c'est qu'il y a une dette ou un déficit énorme, donc on vous présente comme absolument considérable. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'Olivier Véran, là, il parle d'un déficit de 150 milliards d'euros sur 10 ans. Le déficit, il est d'environ 12 milliards par an, donc il le multiplie par 10 pour avoir sur 10 ans, ce qui est un procédé rhétorique assez spécieux. Donc on va en fait essayer de maximiser le problème, de le rendre absolument affolant pour justement faire peur à la population et que chacun et chacune accepte de travailler plus. Mais en fait, le système, il n'est pas du tout en déficit. L'année dernière, il a été excédentaire de 3 milliards d'euros en 2022, bon, déjà. Le rapport du COR, le fameux rapport du Conseil d'orientation des retraites, il fait plusieurs scénarios et sur un scénario parmi les quatre, j'insiste, sur un scénario parmi les quatre, le système serait en déficit à court ou moyen terme, disons. Bon, sur trois scénarios, donc trois scénarios restants sur les quatre, le système est pas du tout en déficit. Donc ça explique pourquoi les opposants comme les partisans de cette réforme s'appuient sur le rapport du COR, puisque il y a différents scénarios.
Samuel Gontier.
Oui, effectivement, le corps, je pense, est à peu près objectif dans ses propositions, parce qu'il fait juste des scénarios, justement, qui, voilà, et après, c'est aux politiques de s'en emparer pour éventuellement faire des réformes dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, il y a, comme dit par exemple Eli Cohen sur BFM TV, pour contrer le discours des syndicalistes et des opposants à la réforme, il dit la rédaction du rapport du COR est suffisamment ambiguë pour que chacun puisse y puiser. Mais évidemment, ce qui compte pour lui, c'est la manière dont il puise, de la même manière que Pascal Perry sur LCI fustige Philippe Martinez de la CGT en disant « Moi, je sais lire les chiffres, c'est la différence avec Philippe Martinez ». Donc voilà, le rapport du COR, on peut d'une certaine manière, lui faire dire ce qu'on veut puisqu'il propose plusieurs scénarios. Et évidemment, ce sont les chiffres retenus par le gouvernement et les éditorialistes néolibéraux qui sont les bons à prendre et pas ceux de Philippe Martinez.
Alors justement, on a quelques images pour illustrer ça. Je le disais en introduction et puis on va y venir à ce rapport du COR. Tout le monde s'en sert de ce rapport du COR, qu'on soit pour, contre la réforme ou même qu'on n'ait pas d'avis d'ailleurs. Et vous allez voir, c'est assez intéressant à regarder.
Ce que disent les travaux du COR, c'est que dans certaines hypothèses, là on est obligé de rentrer un petit peu dans la technique, dans certaines hypothèses sur que va être le taux de chômage, comment va évoluer la productivité, eh bien, le système va être en déficit dans les 25 prochaines années. Si
si on ne fait rien.
Il n'y a aucune nécessité économique à cette réforme, strictement aucune. Vous avez plus de 70% des
Français
qui sont
opposés. Selon certaines études, il y a des...
Selon aucune étude, le rapport du Conseil d'orientation sur les retraites dit qu'il n'y a pas d'hypothèse de trajectoire non contrôlée des dépenses de retraite.
Quelles sont les projections du COR en termes de déficit ? 2027, 12,7 milliards d'euros de déficit des régimes de retraite chaque année. Incontestable, incontesté. Les économistes peuvent vous raconter tout ce qu'ils veulent, y compris les économistes atterrés, y compris les économistes de gauche. C'est une projection solide.
Ce qu'on entend, c'est le système courait à sa perte. C'est faux. Faux et refaux. Non seulement le COR, hein, qui est un institut, qui n'est pas une officine gauchiste, a expliqué en long, en large et en travers que le système n'était pas en péril.
Ouais. Ce rapport, pardon, mais parce que chaque, c'est quand même étonnant ce rapport. Moi d'ailleurs, je fais l'invitation à ce micro. On les a appelés, mais qu'ils viennent parler le corps, parce que tout le monde s'en revendique de ce. C'est-à-dire Emmanuel Macron pour justifier sa réforme, il parle des projections du corps, et l'opposition pour critiquer cette réforme parle du corps. Donc chacun prend son scénario. En
oui,
fait.
Tout à fait.
Alors, une fois n'est pas coutume, on va être d'accord avec Léa Salamé et Charles sur l'image, parce que nous, on a essayé de les faire venir au corps et ils ont refusé. En gros, ils nous ont expliqué qu'ils ne voulaient pas être récupérés sur les plateaux et que les médias, ce n'était pas leur prérogative. Mais alors, du coup, ce rapport du corps, parce que quand on le lit, il y a deux phrases importantes, finalement, dans la synthèse du rapport du corps. De 2022 à 2032, la situation financière du système de retraite se détériore, quelle que soit la convention et le scénario retenu. Après 2022... après 2032, sur les... je trouve plus ma phrase. À plus long terme, voilà, ça y est, j'ai trouvé. La situation financière du système de retraite dépend fortement de la convention et du scénario retenu. C'est-à-dire que, concrètement, le corps fait des projections qui ne sont que des projections.
Oui. Bah oui, et puis c'est même tellement le cas que pour l'année 2022, le COR avait prévu dans son rapport de 2013 un déficit de 22 milliards d'euros. Or, en 2022, on a eu un excédent de 3 milliards d'euros. Bon, alors c'est pas du tout pour dire que ça sert à rien, les travaux du COR, hein, au contraire. Et puis d'ailleurs, ils sont assez appuyés, etc. C'est juste pour dire que bon, on peut pas baser sérieusement une réforme aussi dure et aussi importante que celle proposée par le gouvernement sur le rapport du COR.
Pauline Pernaut, comment on explique que l'économie soit... si maltraité en plateau. Pourquoi il n'y a pas des journalistes économistes qui sont là, des spécialistes ?
Il y en a plein.
Il y en a plein, mais pourquoi on n'entend pas d'autres voix ? Qu'est-ce qui fait qu'on entend toujours les mêmes voix, la même façon de...
Grosse question. Il y a plusieurs, je pense qu'on peut le prendre par plusieurs bouts, mais un élément, si on essaye d'élargir un peu à la structuration du champ médiatique, on a quand même des propriétaires milliardaires qui possèdent des médias qui les utilisent en fait comme des leviers d'influence, des leviers de pouvoir. Là, on a LCI. On a LCI en image, c'est quelque chose dont la direction de TF1 ne s'est jamais cachée, parce que on le rappelait là dans un article qu'on a fait récemment à la création de LCI, Christian Dutoit, qui était dans le haut de la hiérarchie de TF1, disait noir sur blanc, c'était dans un livre de Pierre Péan que c'était une chaîne de pouvoir, quoi. Si vous voulez, les éditorialistes, les chefferies médiatiques qui dominent, qui concentrent le pouvoir éditorial, en fait, il ne s'agit pas de parler de complot, mais disons qu'elles partagent des visions du monde, elles sont socialisées de la même façon, et donc grosso modo, elles sont d'accord. Et de tout ça découle des gens qu'on sélectionne et qui sont globalement tous d'accord entre eux. Et c'est vrai que sur la question économique, c'est particulièrement frappant. Ça fait très longtemps que Acrimed travaille là-dessus, donc on a y compris beaucoup d'exemples chiffrés. Mais c'est précisément peut-être, alors c'est loin d'être la seule, mais c'est la question sur laquelle il y a un défaut de pluralisme énorme, et ce depuis 40 ans. Et donc on retrouve effectivement, en fait, c'est clair, sur le paysage audiovisuel, et là on ne parle pas que des chaînes d'infos, je pense qu'il faut vraiment y insister, services publics compris, donc France 2, France 5, les grandes radios, France Inter, etc., c'est extrêmement difficile, en fait, et je mets à peu près quiconque au défi de pouvoir citer un journaliste économique qui soit animé par une pensée hétérodoxe, keynésienne, marxiste, on peut avoir différentes déclinaisons, mais c'est mission impossible. C'est mission impossible. Je pense qu'ils évoluent tellement dans une bulle que, il y a évidemment pour les plus forcenés d'entre eux, en particulier Pascal Péri est un très bon exemple, qui lui,
Pascal
en plus,
Péri, sur LCI,
voilà, que cumule, parce que s'il n'est pas que dans les médias, enfin, je veux dire, il vient aussi d'entreprises privées, etc. Donc c'est vraiment le statut du chroniqueur et de l'expert qui parasite l'information. Je pense qu'il faut le dire clairement. C'est qu'un exemple, mais donc là, il y a des forcenés. Idéologiquement, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Voilà, c'est normal, quoi. C'est l'entre-soi, et en fait, voilà.
Parce que par habitude, quoi.
Parce que par habitude, et vraiment, les hétérodoxes, c'est des intrus. C'est des accidents, en fait, sur les plateaux. Je pense que tout le monde peut s'en rendre compte. Et d'ailleurs, en général, ça se passe pas non plus très, très bien quand ils interviennent, quoi.
Samuel Gontier.
Oui, je vais prendre un autre exemple, parce qu'on a parlé de LCI, et donc pour que tout le monde soit servi, je vais parler de BFM TV, où aussi, voilà, on a des économistes assez engagés, on va dire, comme Nicolas Bouzou, qu'on présente comme économiste, qu'on fait intervenir dans un débat avec une députée Renaissance et une représentante de la CGT, donc il est là en juge de paix. Mais Nicolas Bouzou, on l'a su il n'y a pas très longtemps, a été rémunéré par Uber pour faire la promotion d'Uber, donc pour faire la promotion de la précarité. C'est lui aussi un ultralibéral qui prédisait en 2014 qu'on aurait deux fois trop de lits d'hôpitaux dans 10 ans en France. Et 20 minutes après, quand BFM TV fait intervenir un nouvel économiste, on peut se dire, ah ben là, on va avoir un point de vue différent. C'est Eli Cohen, qui est exactement sur la même ligne, qui lui-même siège dans des conseils d'administration du CAC 40, donc qui sert exactement le même discours.
Et qui a un soutien d'Emmanuel Macron.
En passant. Et pour revenir sur ce que disait Pauline, je pense qu'effectivement, il y a effectivement des visées idéologiques dans la ligne éditoriale des chaînes, mais je pense qu'il ne faut pas négliger cet effet d'entre-soi et ce caractère sociologique des intervenants, le profil sociologique des intervenants en plateau, c'est-à-dire que pour parler des caristes, pour parler des caissières, pour parler des chauffeurs-livreurs, pour parler des carreleurs, dont on a beaucoup parlé, puisqu'il paraît que tout va bien depuis qu'ils ont des genouillères, et que tout va bien aussi pour les ouvriers du bâtiment depuis qu'ils ont des exosquelettes. Mais voilà, pour parler de ces gens-là, on a des gens dont c'est le métier de prendre le taxi pour aller parler devant des caméras. On peut penser qu'ils ne connaissent pas très très bien effectivement les conditions de travail des ouvriers précaires, des ouvriers qui ont des métiers difficiles. Et malheureusement, ces ouvriers, on ne les voit, enfin ces ouvriers, ces salariés, ces employés, on ne les voit jamais. On n'a jamais sur un plateau un carreleur. On a des représentants syndicaux, mais qui se font à chaque fois couper la parole, comme c'est arrivé sur BFM TV, où Liv Calvi ne laissait pas passer la représentante de la CGT.
Alice Engel, votre pensée économique, vous l'entendez un peu à la télé, ou il faut que vous y alliez pour l'entendre?
Vous voyez, là, par exemple, on parle des atterrés, finalement, dans l'extrait que vous avez passé.
Des
économistes atterrés qui sont tournés en dérision comme les sales gauchistes du coin. Bon, on a l'habitude. C'est vrai qu'une fois, d'ailleurs, en croisant Jean-Marc Daniel avant un plateau il y a quelques mois, il m'a salué ainsi en me disant « Ah, vous êtes l'atterré ». Enfin, moi, j'appelle ça les atterrants. Ça commençait bien. J'étais en bonne disposition pour commencer le plateau. En plus, effectivement, lui a l'habitude. Moi, j'arrive un peu tremblotante, faire face à des gens qui passent leur vie, comme Samuel le disait, sur les plateaux. Ça commençait mal. Mais c'est vrai que la pensée hétérodoxe, de manière plus large, comme l'a dit Pauline, on ne l'entend pas. Enfin, oui, il y a Thomas Piketty, par exemple, sur France Inter, le vendredi matin, avec Dominique Seux. Mais Dominique Seux, il a sa chronique quotidienne. Sinon, Thomas Piketty intervient une seule fois par semaine. Heureusement, il ne lâche pas le morceau, et généralement, il démonte Dominique Seux. Mais bon, C'est trop rare.
Mais il y a une question, je parlais du profil sociologique, tout simplement, il suffit de regarder la question de l'âge des gens qui interviennent aussi. Raymond Soubi sur LCI, c'est 82 ans. Alain Duhamel, c'est 82 ans. Adèle Charbot, c'est 71 ans. Jean-François Amadieu, c'est 65 ans. Je ne sais plus qui encore, Eli Cohen, je ne sais plus quel âge il a, mais il n'est pas tout jeune non plus. Enfin, tous ces gens devraient être à la retraite, en fait, et ils viennent nous parler de ce que devrait être la retraite.
Je voulais ajouter quelque chose parce que effectivement, ce que vous citiez là, le débat du vendredi de France Inter, Piketty, c'est très intéressant parce que c'est un choix éditorial de le faire comme ça parce que France Inter, en fait, avant, je crois, il a fallu attendre, je crois, 5 ans après les attentats de Charlie Hebdo pour qu'il y ait de nouveau quelqu'un qui vienne porter la contradiction. À Dominique Seux, parce qu'avant il y avait Bernard Maris, mais je veux dire un choix éditorial, comment dire, un choix.
Bernard Maris qui était économiste et qui a été assassiné dans l'attentat contre Charlie Hebdo.
Et c'est un choix d'organisation de la grille de France Inter, parce qu'en fait, il pourrait y avoir un débat comme ça tous les matins. Et là, en fait, c'est un très bon exemple pour dire à quel point le pluralisme en matière d'information économique doit se contenter des miettes. Et en plus, devrait dire merci, parce que là, voilà, c'est que le vendredi. Et effectivement, Dominique Seux a sa chronique seul le reste du temps. Et par ailleurs, intervient ailleurs, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'on le retrouve sur LCI, on le retrouve régulièrement dans C'est dans l'air, on le retrouve régulièrement, donc il est, évidemment il a ses pages aux Échos, on le retrouve dans 28 minutes, etc. Et pour ajouter un dernier petit truc, ça traduit aussi la proximité en fait, donc sociologique et idéologique aussi des hauts gradés, on va dire, des chefferies éditoriales avec les élites économiques et politiques de ce pays. Et un exemple intéressant, et ils sont nombreux, ils vont se multiplier là sur les plateaux à n'en pas douter, c'est les rapports qui existent entre les directions éditoriales et le cercle des économistes, qui est évidemment très libéral, dont beaucoup ont participé d'ailleurs au programme d'Emmanuel Macron en 2017. Le cercle des économistes, par exemple, co-anime une émission sur France Info, les informés de l'Écho. Voilà, et ça, enfin, ça paraît tout à fait naturel. Le cercle des économistes, il y a quelques années, passait un partenariat avec le service public Radio France pour venir, parce que c'est lui qui organise les rencontres économiques qui ont lieu chaque année. Et donc, la direction de Radio France était, avant que ça provoque un tollé, notamment porté par la CGT de Radio France, mais était prête à signer, à ratifier un partenariat avec le Cercle des économistes pour organiser cet événement. Mais je veux dire, c'est quand même ultra problématique. Et dernier truc, évidemment, ces gens ne sont jamais, ou alors très rarement, étiquetés en tant que ce qu'ils sont, c'est-à-dire des économistes libéraux, un traitement que, en revanche, les économistes hétérodoxes, le peu de fois qu'ils passent sur les plateaux, on les étiquette tout de suite, ce qui est une manière, évidemment, de les marquer symboliquement et, en général, de les disqualifier, quoi.
Ça va même encore plus loin, parce que quelquefois la présentation est mensongère, parce que par exemple David Pujadas présente Denis Oliven comme un homme de gauche, comme un essayiste de gauche, qui bien sûr pense que chacun en son fort intérieur a conscience de la nécessité de la réforme des retraites.
Ah, oui. D'accord.
Alors, il y a un autre mécanisme qui est à l'œuvre, vous l'avez raconté chez Acrimed, c'est que même quand on a un opposant à la réforme, je prends l'exemple de Marine Tondelier, parce que c'est l'article que vous avez publié cette semaine, on va regarder un petit extrait. Marine Tondelier, qui est donc la nouvelle patronne d'Europe Écologie Les Verts, opposée à la réforme et qui se retrouve face à 3 éditorialistes qui ont l'air très, très pro-réforme.
Vous avez écrit que vos baskets étaient prêtes, sous-entendu que vous êtes prête à descendre dans la rue, si j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Vous n'avez pas d'abord envie d'écouter Elisabeth Borne?
Il y a quand même, comme vous dites, un problème de financement que vous jugez
beaucoup moindre que ce que dit le gouvernement.
Est-ce qu'on reste les bras ballants en disant bon, on va attendre que le système se déséquilibre tranquillement et on ne paiera plus les pensions, ou il y a des remèdes à trouver? Elisabeth Borne dit 100 milliards sur 10
évidemment,
ans.
Évidemment, elle veut dire sa réforme. Donc, elle va nous insister à l'urgence, là où nous, on va dire l'inverse.
Mmh. Enfin, en 2027, les Français vieillissent et il y aura de plus en plus d'inactifs face aux actifs.
Oui, mais c'est une phase.
Malgré tout, il n'y a pas des choses que vous pourriez retenir, je pense.
Genre le 1200 euros.
Voilà, le minimum vieillesse. Bah, je pense aussi à l'index qu'ils veulent mettre en place dans les entreprises pour les seniors, justement. Ça, c'est quand même des choses
évidemment,
positives.
Évidemment, alors déjà, j'attends de voir la vraie réforme, parce que pour l'instant, on balance des ballons d'essai pour voir comment on réagit, on n'a pas les détails.
J'ai quand même une question que je pose souvent ici, mais alors pourquoi le font-ils?
Parce que c'est une réforme idéologique.
Je reprends ma question. Le gouvernement veut-il donc sciemment appauvrir les plus pauvres, et si c'est le cas, les plus vieux, et si c'est le cas, pourquoi?
Bah, les plus vieux et les plus pauvres, vous
mais
pouvez tout mettre dans le même...
Mais pourquoi
c'est de la méchanceté?
Non, je pense que c'est de l'idéologie et que ce gouvernement est au service d'une classe.
La réforme des retraites, elle s'inscrit dans un contexte qui est un endettement de la France assez conséquent, plus de 110% du PIB, des taux d'intérêt qui remontent, donc un problème de charge de la dette qui va peser dans les années à venir. Comment vous considérez ce sujet en disant ben, on essaiera d'annuler la dette, c'est pas une charge, ou comment vous essayez de concilier ce que vous proposez, c'est-à-dire de nouveaux avantages, le retour à la retraite à 60 ans, ce qui va coûter et non pas faire des économies, et cette situation budgétaire dans laquelle on se retrouve? Mais vous pensez qu'on peut tout financer comme ça?
Non.
Voilà, le gouvernement est-il méchant? Anaïs Engel, on a un bon extrait de votre manuel là, parce que on a la protection des plus pauvres, ça bénéficiera aux familles et aux femmes, l'espérance de vie augmente, il faut en profiter.
Voilà.
Ça, on l'a beaucoup entendu aussi. On a l'impression que c'est la radicalité n'est que d'un côté, du vôtre, des anti-réformes. Vous avez l'impression d'être radical dans votre pensée?
Pas du tout. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être plutôt dans une construction d'une société plus heureuse et plus joyeuse, qui ne me semble pas forcément être super radicale dit comme ça. En fait, là, c'est vraiment le florilège. On a les quatre outils rhétoriques qu'ils utilisent tout le temps. Donc déjà, tout mélangé. Donc là, on mélange dette publique, dette sociale. On met un peu tout ensemble dans un gros bouliboulga d'arguments libéraux qui tombent sur la pauvre Marine Tondelier. Bon, qui ne sait pas trop comment se dépatouiller. Bon, il y a la subversion du langage, c'est-à-dire que voilà, on va dire c'est un progrès social alors qu'en fait faut qu'on montre clairement où est le progrès social. On va travailler tous 2 ans de plus, bon, super progrès social. Il y a aussi le fait de tout le temps faire le chantage à la dette. Il y a la dette, on en a déjà parlé, la dette augmente, attention, bonnes gens, ayez peur, et donc accepter sans sourciller la réforme à venir. Ça, c'est un argument qui est extrêmement puissant, qui a notamment été mis en place dans beaucoup de services publics ou d'entreprises publiques précédemment, comme la SNCF, l'assurance chômage, bon, toutes les réformes, toutes les casses du service public plus généralement. C'est notamment l'économiste Benjamin Lemoine qui travaille beaucoup sur cette notion de chantage à la dette et qui la théorise assez bien. Et enfin, donc le quatrième argument, c'est de toujours dire il n'y a pas d'alternative. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques le TINA, There is no alternative, qui a été mis en avant par Margaret Thatcher dans les années 80 et qui est repris à tour de bras par tous les opposants libéraux. Par exemple, la journaliste qui dit là, mais alors, on ne fait rien, on reste les bras ballants. On n'a pas dit ça non plus d'ailleurs. Moi, effectivement, je pense que le système n'est pas en danger et qu'il n'y a pas d'urgence à le réformer. En revanche, je pense qu'effectivement, il a des défauts sur la question des femmes, hein, par exemple, ou de leur prise en compte de la retraite. Et on a plein d'idées alternatives pour prendre mieux en compte la réalité des femmes. On n'est pas coincé dans cette espèce de scénario triste et socialement en plus très injuste qu'il nous propose.
Justement, allons-y. Est-ce qu'il faut rééquilibrer ce système ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Et est-ce que l'âge de départ est la seule solution pour le changer? Ou pour l'amender?
Alors déjà, donc, sur la première question, est-ce qu'il faut rééquilibrer le système? Pas nécessairement. Donc il n'y a pas de danger.
Vous dites qu'on peut vivre avec un déficit modéré contenu.
Tout à fait. Hein, si vous voulez, c'est l'heure de grandeur. C'est si vous êtes à découvert de 30 euros, vous gagnez 1000 euros par mois, bon, c'est embêtant, mais c'est pas la catastrophe. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient contents d'avoir que 30 euros de déficit à la fin du mois, hein, pour les petits salaires. Bon. Donc on n'est pas forcément dans une situation catastrophique. Loin de là. En revanche, effectivement, le système, il a quand même des défauts, on ne va pas non plus le nier. C'est un très très beau système social que nous avons en France. Mais
souvent, c'est une usine usine à gaz, mais qui fonctionne plutôt pas mal.
Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est une usine à gaz. Alors, en tout cas, moi, les défauts que je verrais, c'est plutôt, effectivement, tout ce qui est pris en compte de la pénibilité, qui se fait assez mal. Voilà, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui sont déjà en très mauvaise santé quand ils arrivent à la retraite, ou qui sont en fait déjà morts aussi, pour certains d'entre eux, malheureusement. La question des femmes et leur prise en compte. On sait que le salaire des femmes est inférieur de 22% à celui des hommes en moyenne, et pour les pensions, c'est 40%. Donc, c'est cumulatif au cours de la vie, et ça, malheureusement, on n'arrive pas à le... Bon. Bref, donc tout ça pour répondre à votre question initiale qui était, est-ce qu'il y a des moyens alternatifs ? Oui, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a trois leviers sur lesquels on peut agir pour éventuellement trouver, rééquilibrer le système si c'était nécessaire, ou au moins pour faire un peu différemment. C'est soit on augmente l'âge de départ à la retraite, donc mauvaise idée à mon avis, soit on baisse les pensions, encore plus mauvaise idée, ou bien sinon on augmente les recettes et on trouve des recettes alternatives, et ça il y a plein d'idées pour trouver d'autres recettes. Par exemple, j'en donne juste une ou deux, arrêter d'exonérer de cotisations sociales un tas de choses. Là on a à peu près 90 milliards d'euros de cotisations sociales qui partent chaque année parce qu'on exonère les entreprises de ces cotisations sociales. On peut aussi, par exemple, mettre des cotisations sociales sur d'autres revenus du travail, comme l'épargne salariale ou ce genre de choses. Donc, en gros, il y a plein d'idées. Il faut juste avoir un débat démocratique à ce sujet.
Pauline Perreno, des opposants comme ça, acculés sur un plateau, vous le voyez tous les jours, ça ?
Oui, c'est tous les jours. Le dispositif est vraiment intéressant parce que on a vraiment trois éditorialistes qui sont d'accord entre elles, grosso modo.
Sur les services publics, je me permets d'insister.
C'est l'émission à trois têtes là, du dimanche, donc France Inter, France Info et Le Monde, puisque Madame Fressoz tient sa chronique au Monde, et Madame Saint-Cricq et éditorialiste pour France Télévisions. Donc là c'est vraiment on est sur un exemple très édifiant de ce qui se fait régulièrement, c'est-à-dire des gens qu'on voit partout tout le temps. Bon, Karine Bécart un peu moins, c'est vrai qu'elle est sur Inter, mais Nathalie Saint-Cricq et Françoise Fressoz, qui sont d'accord et qui enferment complètement leur invité dans un cadrage qui n'est pas le sien et qui n'a pas droit de citer, parce qu'en fait la question qu'on a entendue de Fressoz avant l'avant-dernière du montage, elle est vraiment pur jus, quoi. C'est-à-dire que pour sortir de ça, en fait, c'est extrêmement difficile.
C'était laquelle, la question, juste ?
La question à tiroir, l'avant-dernière que vous avez passée. Elle prétend inscrire la réforme dans un contexte qui est un contexte, mais qu'on pourrait trouver d'autres éléments de contexte. Donc déjà, elle naturalise complètement un contexte qui est le sien et qui, en l'occurrence, correspond à celui que met en avant le gouvernement. Ensuite, elle distille des petits partis pris en incises, comme ça, l'air de rien, etc. Elle dit évidemment qu'elle mentionne, que Marine Tondelier propose la retraite à 60 ans, mais c'est immédiatement pour dire, dans ce qui est toujours censé être une question, que ça va coûter et non pas faire des économies. Donc ça, pareil, c'est lourd de sens. Ça fait, on raccroche des totems médiatico-politiques, la dette, ce que vous disiez tout à l'heure, la réduction des déficits, etc. Tout ça. Donc c'est une question hyper chargée, une question à tiroir qui n'en est pas, c'est ce qu'on disait dans l'article, qui n'est pas une question et qui enferme l'interlocutrice dans un cadrage et dont il est très difficile de se sortir, parce que là, en répondant, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà démonter toute la question de Françoise Fressoz pour dire tout ce qu'elle contient de biais et pour dire à quel point toute sa prise de parole déjà est fondamentalement politique, quoi. Se lancer là-dedans, dans un dispositif comme ça, où on a trois adversaires, parce qu'il faut le dire comme ça, plus un quatrième, c'est pas possible.
– Thomas Negaroff s'y met aussi.
– Mais il s'y met aussi, mais parce que c'est souvent le cas, ce pseudo-rôle d'arbitre-là qui n'en est pas un, et en général, quand il y a trois personnes, ça fait un quatrième éditocrate, quoi. En gros, Samuel, sur les chaînes d'infos, pourra le dire mieux. Et voilà, et donc là, effectivement, on a tout, quoi.
Oui, enfin, comme on le disait, c'est un dispositif qu'on retrouve très souvent, effectivement, un ou une contre toutes et tous sur les plateaux. On a vu Philippe Martinez aussi en duplex sur LCI lundi dernier, qui se faisait attaquer de toutes parts par les personnes présentes en plateau. Et je reviens justement sur ce dispositif un tout petit peu différent, où la personne, le représentant ou la représentante politique, ou le dirigeant ou la dirigeante syndicale, est en duplex. Et alors là, du coup, on le laisse plus ou moins parler, mais alors, dès que l'interview est finie, alors là, c'est parti. Là, il n'est plus là pour se défendre, et c'est parti pour le démolir de toutes parts.
On attend que la liaison soit coupée pour répondre. Comment on explique que ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est aussi le côté, la radicalité est de votre côté, finalement. C'est-à-dire, comme si cette réforme n'était pas une forme de radicalité aussi, et comme si la radicalité d'en face était plus grave, plus choquante, plus inquiétante. Comment on explique ça, qu'on ait autant de mal à faire exprimer des idées qui sont pourtant pas si radicales? La retraite à 60 ans, c'est pas le grand soir non plus. Comment on explique que ces idées-là ont tant de mal à se diffuser?
Enfin, je pense qu'on l'a dit, c'est une question de dispositif. Quand on est seul contre tous, c'est difficile de placer une idée. Quand on est enseveli sous des arguments qui se présentent comme de la bonne foi et du bon sens, qui en fait sont très empreints d'idéologie et d'arrière-pensée politique, forcément, le temps effectivement, comme disait Pauline, le temps de démonter ce discours, on n'a même pas eu le temps d'exprimer ses propres idées, quoi, en gros. Donc on est vraiment coincé. Voilà, je sais pas quoi.
Oui, et puis c'est vraiment de la pensée, c'est la pensée jetable, quoi, c'est la pensée automatique. Et donc c'est la réforme. Nous, on l'écrit souvent en un seul mot, mais parce qu'il y a la réforme et il y a rien d'autre. C'est vraiment le nom alternative. Et en général, on a publié, je crois que c'était en 2019, on avait republié dans Acrimed un lexique pourtant de mobilisation et de réforme des retraites. C'est la réforme ou rien. D'ailleurs, un titre de LCI à l'époque était « La réforme ou la ruine ». Je ne sais plus quel éditorialiste, il n'y a pas longtemps, a dit « La réforme ou la faillite ». Je crois que c'était Sonia Mabrouk sur Europe 1. Tout opposant à la réforme, qui ne peut être que néolibéral, est considéré et campé dans une position d'immobiliste, ce qui est quand même un comble, parce qu'il y a un truc très intéressant avec Nathalie Saint-Cric, elle dit « Vous êtes partisan de la retraite à 60 ans, et donc vous ne voulez pas bouger ». Je ne sais même pas si elle se rend compte de ce qu'elle est en train de dire, parce qu'on pourrait dire, grosso modo, si, ça, c'est bouger, mais ça témoigne
c'est
de leur...
C'est,
voilà, c'est bouger, mais dans l'autre sens. Mais ça témoigne de leur état d'esprit, quoi. Et donc, que la réforme ne peut être que synonyme de régression sociale. Alors, évidemment, ils ne le diront jamais comme ça, mais c'est le cas. Et tout le reste est immobiliste, indésirable, rétif, ignorant, parce qu'il y a ça aussi, quoi. C'est-à-dire que là, une des premières étapes, c'était quand même, comme à chaque contre-réforme, c'est il faut faire la pédagogie.
C'est pas seulement des idées libérales qu'on a présentées comme l'évidence, c'est carrément souvent même de la désinformation, et beaucoup de désinformation par omission, en fait. Par exemple, mardi et mercredi, suite à l'annonce de la réforme des retraites, on a entendu partout, sur LCI, sur TF1, sur CNews, sur BFM TV et même sur France 2, que la retraite minimum, la pension minimum pour tous les retraités serait de 1 200 euros minimum. Voilà, minimum pour tout le monde, 1 200 euros. En fait, non, il faut avoir cotisé 172 trimestres, 43 ans, il faut avoir eu une carrière complète. Donc tout le monde ne touchera pas 1 200 euros. Et pendant deux jours, on a martelé, tous les éditorialistes, tous les experts, etc., ont martelé, c'est extrêmement généreux, il y aura 1 200 euros pour tout le monde au minimum.
Et par ailleurs, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que pour l'instant, l'état actuel du projet, ça ne concerne pas les retraités et ceux qui sont déjà retraités.
Voilà.
C'est pas clair, en tout cas.
C'est pas très clair.
Et en plus, c'est 1 200 euros brut, donc pas net. Enfin, en fait, il y a rien qui va avec cette annonce. Et puis, quand bien même, ce serait 1 200 euros net, etc., les éditorialistes sur ces plateaux, je les mets au défi personnel de vivre avec ça. C'est quelque chose... Effectivement, parce que quand vous dites « on est seul contre tous sur ce genre de plateau », alors je suis entièrement d'accord, ceci dit, on n'est pas seul contre tous en réalité. Quand on regarde un peu les Français qui soutiennent ou pas la réforme, 80% des Français rejettent la réforme. Donc c'est quand même étonnant qu'on n'en trouve pas un ou deux pour aller sur ces plateaux témoigner. Enfin, c'est-à-dire que là, moi j'essaye un peu d'animer quelques débats citoyens sur le sujet. Je rencontre plein de gens qui me disent mais on est usé par le boulot, 64 ans, ça nous paraît impossible, on a peur. Ils sont où ces témoignages-là? On les retrouve pas trop dans les chaînes d'infos en continu ou d'infos service public, par exemple.
Et même aux 20h, c'est assez frappant. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vu que TF1 ou France 2 faisaient quand même un peu l'effort d'aller rencontrer des travailleurs qui ont des métiers un peu pénibles, mais souvent ils sont interviewés sur le lieu de leur entreprise, dans leur entreprise, sous les yeux de leur patron, donc ce qui quand même contraint un petit peu le discours. Et même aux 20h de TF1, mardi dernier, le jour de l'annonce, premier sujet, on fait un reportage en expliquant un petit peu les mesures et en faisant un micro-trottoir. Et sur 4 personnes interrogées, 4 personnes sont favorables à la réforme des retraites, alors qu'on sait qu'on est en gros 70 à 80% des Français, selon les sondages, qui sont opposés. Donc, tout d'un coup, comme ça, on se retrouve avec 100% de personnes favorables.
On les cherche dans la rue et on élimine ceux qui ne vont pas ah, ben, ou alors
c'est
un hasard statistique
Alors déjà, il y a peut-être un hasard qui est bien fait, parce que le TF1 va faire ses micro-trottoirs pas très loin de TF1, c'est-à-dire en cours entre Boulogne, le 15e, le 16e arrondissement, déjà, ça sélectionne un petit peu.
Donc, des quartiers plutôt riches, pour ceux qui ne connaîtraient pas.
Et puis après, je pense qu'effectivement, on trouve des gens, le terme de TF1, c'était ouais, « les gens sont gagnés par le fatalisme ». Voilà, donc les gens disaient « bah ouais, cette réforme, de toute façon, il faut la faire
voilà. ». Ça, le micro-trottoir, c'est... Bon, on ne va pas faire l'historique du micro-trottoir parce qu'on en a déjà beaucoup parlé chez Arrive sur Image, mais sur ce genre de sujet, c'est la panacée, quoi.
Ouais,
c'est-à-dire
ouais.
qu'on va demander aux gens directement ce qu'ils en pensent. Ouais. Comment on explique ça, justement ? Qu'on trouve des gens qui sont tous d'accord avec cette réforme. On en a vu aussi d'autres, hein, où il y a quand même 50-50, parfois 70-30, etc. Mais même, d'ailleurs, 50-50... statistiquement,
il y a
c'est.
Un point contre, mais ça
c'est. Oui, ouais.
Bah alors, sur le format du micro-trottoir, je ne peux que conseiller le livre qu'on a publié il y a quelques temps qui s'appelle donc Les médias contre la rue, où on fait tout un développement là-dessus. Après, là, il en va de même, par exemple, dans les matinales, quand il y a des auditeurs qui sont sélectionnés pour prendre la parole dans les grands entretiens du matin. Alors, il y a sur France Inter, par exemple, il y en a quelques-uns qui se sont exprimés contre, mais ils en trouvent énormément beaucoup qui sont pour. Et ils lisent aussi beaucoup de questions qu'ils reçoivent de gens qui sont pour la réforme. Donc là, je veux dire, c'est ni plus ni moins que des choix éditoriaux. C'est ce qu'ils veulent faire. Je veux dire, un sujet de 20 heures, on sait très bien comment c'est construit, comment c'est fabriqué. Et là, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire aux personnes, aux journalistes qui concentrent le pouvoir éditorial et qui donc ont en main les choix éditoriaux, parce qu'en fait, bon, après, on peut parler des journalistes ou même des soutiens de l'information qui sont chargés d'aller recueillir. En fait, pour nous, l'enjeu à Acrimed, il n'est pas là. L'enjeu, il est de où est le pouvoir éditorial et que c'est eux qui fixent les angles. C'est eux qui d'ailleurs, bien souvent dans les 20 heures, préfabriquent les sujets aussi à l'avance. Je veux dire, vous avez fait des très bonnes émissions aussi là-dessus. Donc c'est tout à fait spectaculaire. Et pour en revenir... aussi sur les dispositifs, il y a cette manière d'être complètement isolé en plateau. Et je me rappelle d'un plateau récent là, qu'on avait commenté là, dans le premier article d'Acrimed, où c'est sur BFM TV, donc Olivier Truchot qui et Alain Marchal qui animent l'émission. Antoine Léaumont, député FI, est en plateau. Il essaye d'exposer un peu une autre réforme possible, donc une alternative, et d'exposer les conditions de sa possibilité. Et la réaction de Truchot est immédiate, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un coup de sifflet, quoi. Il lui dit « ce n'est pas le sujet ».
Je peux lire, parce que du coup, j'ai l'extrait sous les yeux. Non, mais je l'ai retrouvé pendant que vous parliez. Olivier Truchot donc répond à Antoine Léaumont et lui dit « ça ne sera pas retenu, je vous le dis tout de suite. On peut en discuter, mais ce n'est pas le projet du gouvernement, ce n'est pas vous qui êtes au pouvoir. Pardon, monsieur le député, c'est très intéressant, mais on ne discute pas de ça. »
Voilà, bah, ça, c'est caractéristique de ce qu'on appelle les chiens de garde, les gardiens de l'ordre. C'est-à-dire, il y a un périmètre acceptable du débat. Et donc, tout ce qui s'écarte... du périmètre acceptable, en d'autres termes, la réforme néolibérale, n'a pas de droit de cité et donc sera immédiatement disqualifié. Ça vaut, on l'a dit tout à l'heure aussi, pour les interlocuteurs. C'est exactement la même chose. Dans l'émission d'Inter, à un moment, Marine Tondelier fait référence à Thomas Piketty. Il n'y a personne qui rebondit, en fait, là-dessus. Ça ne les intéresse pas, en fait. Et parce que Nathalie Saint-Cricq dira « c'est quand même un économiste qui est classé très à gauche ». Fin du débat. Voilà, parce qu'il n'est pas non grata, parce qu'il s'exprime dans le paysage. Mais disons que voilà, ce n'est pas l'interlocuteur acceptable, pas en ce moment, de la même manière qu'il y a des alternatives qui n'ont pas droit de cité. Et donc le cadre, c'est celui de la réforme. On ne doit pas en déroger. D'ailleurs... indépendant de ça, qu'on retrouve beaucoup sur les plateaux, qui est une autre manière d'enfermer de contraindre en fait le débat et les opposants, c'est de demander aux personnes qui sont opposées à cette réforme de donner des bons points au gouvernement. Donc là, on l'a entendu, je crois, dans le montage, c'est « mais quand même, il y a ça, est-ce que ça, c'est pas une avancée, il n'y a rien à garder, etc. 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 » ce qui est, du point de vue de l'information, assez particulier quand même, parce que, en fait, à partir du moment où ils sont contre, on peut se dire que cette question n'est pas légitime, en fait. Ce genre de question n'est pas légitime.
Anaïs Engel, vous, si on vous demandait, il n'y a rien à garder dans cette réforme, vous trouverez ça normal qu'on vous pose la question, ou en effet, vous dites, bah, non, puisque je suis opposé à cette réforme, pourquoi vous me demandez si...
Oui, effectivement. Mais en fait, c'est une question, en effet, qu'on pose beaucoup aux opposants. Je ne sais pas pourquoi on ne demande pas à ceux qui sont pour. Est-ce qu'il y a quelque chose à acheter? Enfin, on pourrait leur demander aussi, après tout. Bon, en tout cas, je vois beaucoup de choses à acheter. Je vois peu de choses à garder. Alors bon, après, c'est un peu classique du macronisme, j'ai l'impression, depuis les 6 dernières années. C'est toujours de partir d'un constat qui est plutôt un constat qu'on peut partager, hein. C'est-à-dire que en effet, le système de retraite a des défauts. Bon, par exemple, c'est pas normal qu'il y ait des petites pensions, qu'il y ait des gens qui vivent avec 700 euros par mois quand ils sont à la retraite. Ça peut pas marcher dans la France d'aujourd'hui. Et après, de proposer un truc en disant, mais voyez, on fait des choses. Ben, oui, mais enfin... donc on est toujours un peu pris entre deux feux de, oui, on partage le constat du problème des petites retraites, pour autant, enfin c'est toujours un peu il faut toujours être dans un débat binaire, quoi. C'est soit oui, soit non. Mais moi, je partage le constat selon lequel les petites retraites, c'est un problème. Pour autant, je suis contre cette réforme des retraites. Et non, je garderai rien, en fait. Enfin, je la ferais complètement différemment si c'était si j'étais au pouvoir. Malheureusement, ce n'est pas le camp auquel j'appartiens qui est au pouvoir.
Alors, je le disais au début de l'émission, les opposants sont chauds et ils ont décidé d'organiser des grèves et des manifestations. Qui n'ont pas reçu un très bon accueil sur nos plateaux télé.
Philippe Martinez prend-il ses désirs pour des réalités? Les Français hostiles à la réforme, comme le montre notre sondage Elab, sont-ils prêts à descendre dans la rue? Ont-ils envie aussi de voir une France bloquée après avoir vécu 2 ans de Covid? Et ont-ils les moyens de faire grève alors que l'inflation alimentaire flambe?
Pour se mobiliser, il faut aussi se dire... Si je me mobilise, ça peut marcher. Je peux faire plier le gouvernement. Peut-être que les Français se diront que non, que le gouvernement est déjà passé de 65 ans à 64 ans et qu'il est impossible aujourd'hui d'obtenir plus.
On va au bout de nos arrière-pensées, c'est plus simple. Est-ce que vous avez déjà l'idée de grève reconductible? C'est ce qui veut dire engager un conflit rude.
Votre modèle, c'est peut-être 1995, mais on a vu aussi dans le passé que des mobilisations contre la réforme des retraites n'ont pas servi à faire reculer le gouvernement.
Vous êtes cheminot. Est-ce que, comme Philippe Martinez en 95, vous êtes aujourd'hui à effectivement bloquer le pays? Et mon propos n'est pas polémique.
Je
voilà.
Ne bloque rien.
19, 20, 21.
C'est le travail. Oui, c'est oui. Pas la même chose. Voilà. Mais évidemment.
Il y a eu 2003, la grève générale qui n'a pas pris malgré la forte mobilisation. Il y avait eu la grève à la Poste, à France Télécom, dans les hôpitaux, à la RATP, à la SNCF, grève des aiguilleurs du ciel. Ça n'a pas suffi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que cette année, ça ne se passera pas comme en 2003?
Laurent Berger dit qu'il ne veut pas bloquer la France. Est-ce que c'est de l'humour?
Vous êtes prêts à aller jusqu'où? En gros, comment va se passer la journée du 19 janvier? Qu'est-ce qui va faire qu'ensuite vous vous dites « nous sommes suffisamment forts pour continuer le mouvement » Ça peut aussi faire un flop.
Bonsoir Alain Fontaine. Vous présidez l'association des maîtres restaurateurs. Je rappelle votre restaurant Le Mesturé. Et vous êtes visiblement inquiet par cette détermination. Enfin, êtes-vous inquiet par cette détermination des syndicats? Je vous ai entendu dire qu'apparemment ça vous terrorisait. C'est fort comme terme.
Ça Samuel Gontier est mort de rire.
J'ai passé ma semaine dedans. Donc.
Yves Calvi qui dit qu'il va au bout de ses arrière-pensées. Il le fait souvent, d'aller au bout de ses arrière-pensées sur BFM TV.
Non, c'est marrant parce que voilà, mercredi soir, c'était le spectre du pays bloqué, le jeudi noir, le spectre du jeudi noir, pire qu'en 95, etc. Et voilà, en gros, c'est les grévistes, les syndicalistes vont empêcher les Français de vivre. C'est-à-dire que c'est le discours. Voilà, qui revient tout le temps dans le cas de mouvements sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se mobilisent contre les Français, comme si les grévistes ou les représentants syndicaux ou les militants, les salariés n'étaient pas des Français.
Pauline Thérèse, ouais, vas-y.
Ouais, non, ben c'est intéressant parce que c'est la première journée de mobilisation n'a pas eu lieu. C'est le 19. Et là, on a une période de une semaine, 10 jours, où on a, donc il faut rappeler, il faut le dire et le redire à quel point c'est une forme très particulière de journalisme, si on veut être sympa, ou dire plutôt que ce n'est pas de l'information. C'est, nous on appelle ça les prophètes de la démobilisation. Mais c'est du journalisme du pronostic, qui est une sorte de variante de journalisme de commentaire, et qui consiste, enfin, c'est très marqué par le fait de co-construire. Une co-construction anticipée de la peur. Donc ça, c'est vraiment des spécialistes. Alors on va avoir ceux qui bombent le torse en disant les syndicats sont à la ramasse, ça on l'entend beaucoup sur les plateaux, les Français sont apathiques, les Français sont résignés, le fait de rabâcher ça, qui est déjà quand même un ressort de démobilisation assez puissant, le tout sur la base de sondages. Généralement, il y a beaucoup de sondologues là depuis la rentrée qui ont fait leur rentrée sur les grandes matinales radio, France Info. Ils faisaient la une du Figaro. Ils étaient sur France Inter, teinturiers. Ils sont dans encore une fois tous les magazines de France 5, etc. pour répéter un peu la même chose. C'est repris par les différents commentateurs. Donc ça, c'est déjà un ressort de la démobilisation. Un deuxième ressort, c'est d'anticiper un peu ce que disait Samuel. C'est d'anticiper un peu ce qui va être un biais structurant du traitement médiatique une fois que les mobilisations auront commencé, donc c'est-à-dire la galère, la prise d'otages, les éternels mêmes reportages sur les quais de gare, etc., etc. Et il y a un troisième ressort qui est vraiment structurant depuis longtemps, mais particulièrement depuis 2016, qui est un journalisme de préfecture anticipé. Donc, c'est-à-dire que là, on va avoir des notes sur la base de notes des services de renseignement, etc., des journalistes qui vont relayer de manière tout à fait complaisante les discours des autorités policières, préfectures, mais y compris c'est fait par le gouvernement, de dire qu'en gros, il va y avoir des violences, tatati, donc là c'est parti, dans les émissions de débat, on entend parler des black blocs, enfin du black bloc, ils utilisent ce terme en plus n'importe comment, mais bref, donc ça va être la violence. Et donc ça, c'est quand même, il faut rappeler à quel point c'est tout à fait problématique dans le traitement de l'information, c'est-à-dire qu'en fait on commente par avance quelque chose qui ne s'est pas produit. Et France 2, parce que là je l'ai sous les yeux, ouais, c'est ça, France 2 en 2019
Je le précise juste pour les gens qui regardent, c'est une note du renseignement territorial datée de janvier 2023, donc là il y a quelques jours, et qui anticipe des formes d'action ultra-violentes, violentes, pendant les manifestations ou pendant les mouvements sociaux d'opposition à la réforme des retraites. Et c'est une note qui a été reprise sur quasiment toutes les chaînes.
Sur France 2, je reviens parce que ça précise, enfin ça illustre un petit peu ce que dit Pauline. Sur France 2, donc cette note a été mise en exergue, comme on le voit sur cet écran-là. Et juste après, on a, comme tu disais, Brice Teinturier qui dit « Ah ben non, de toute façon, il n'y aura pas de mobilisation soutenue et durable, parce que se mobiliser quand vous dites on n'obtiendra pas de résultat, ça ne sert à rien. »
Justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que dans tout ça, il y a quand même quelque chose de très intéressant dans le montage qu'on a vu tout à l'heure, c'est la contradiction. On a l'impression qu'il y a deux envies très contradictoires. À la fois que ça ne marche pas, donc on dit à tout le monde « Non, ben ça va être un flop, votre truc », et à la fois ce que ça pète. Et donc, on se dit, il faudra quand même préparer les gens à ce que ça pète, quoi. Comment on concilie les deux c'est le rêve secret et en même temps le...
Parce que ils commencent à paniquer, doucement mais sûrement, quoi. Et donc, ils se retrouveront dans le même... voilà, c'est fondamentalement, même parmi les éditorialistes, en gros, qui ne la défendent pas bec et ongle, la réforme, en gros, ils la défendront parce que l'ordre social, et donc à une réforme injuste, à la limite ça passe, bon, il y en a peut-être qui peuvent mettre des petits désaccords ici ou là, mais fondamentalement, le désordre, ça passe pas, quoi. Ça, ce sera jamais possible, et donc du coup, au nom du rétablissement de l'ordre, ils prendront parti et les opposants vivront un calvaire sur les plateaux. Mais là, voilà, il faut dire à quel point, par exemple, c'est hyper puissant ce journalisme. C'est un stade avancé de ce que nous on appelle le journalisme de préfecture, hein, cette co-construction anticipée. Et le 20h, en l'occurrence, de France 2 est vraiment récidive, vraiment, de ce point de vue-là. Parce qu'en 2019, nous, on avait étudié les 4 jours qui avaient précédé la première journée de grève interprofessionnelle, donc du 5 décembre. Et dans au moins 2 20h, il y avait eu des sujets à part entière consacrés à ça. Vraiment de la prophétie, il va y avoir de la violence, et comme le 20h, en tout état de cause, n'avait pas d'image encore des manifestations, puisque elles n'avaient pas eu lieu, eh bien, il recyclait d'anciennes images de violence des manifestants, parce que évidemment, elles n'existent pas. Donc c'était des images de violence dans les manifestations. Ils ont fait un premier sujet pendant le 1er mai 2019, et ensuite ils en ont refait un lendemain en 2018. Donc c'était ça le sujet. Le tout pour dire, en gros, ça va se passer de la même manière, et attention. Donc voilà, typiquement des sujets. Enfin, ni fait ni à faire, quoi. Mais alors, qui ont une fonction symbolique tout à fait précise, qui est la démobilisation, quoi.
Samuel Gontier, les mouvements sociaux vont commencer, enfin, ils ont déjà commencé, mais disons, les actions concrètes vont commencer bientôt. Vous suivez ça depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a un mouvement social qui a déjà trouvé grâce aux yeux de...
Ah ben celui, par exemple, des médecins récemment, c'est-à-dire que voilà, les médecins libéraux qui font grève pour avoir le prix de la consultation, le montant de la consultation qui passerait à 50 euros, là, on n'a pas vu de sujet sur le fait qu'ils bloquaient l'accès aux soins pour les malades. Au contraire, on est allé leur tendre le micro pour avoir connaissance de leurs revendications. Voilà. Là, effectivement, on est dans un biais sociologique aussi de représentation. Mais dans les camps, ce sont des mouvements sociaux massifs qui mobilisent des salariés lambda, si on peut dire. Là, je crois que je n'en ai jamais vu qui trouvaient grâce aux yeux des éditorialistes.
De mémoire de Samuel Gontier, ça n'existe pas.
Et puis, voilà. Mais effectivement, il y a une dramatisation là. Alors, je ne sais pas si c'est pire qu'en 2019, mais moi, j'étais assez frappé donc, par ce jeudi noir, cette menace de blocage du pays. Sur LCI, il y a le sensuel avec Jean-François Amadieu qui dit qu'il y a des éléments nouveaux dans le paysage social. Le présentateur Julien Arnaud qui dit les Black Blocs, la violence, la radicalisation. Raymond Soubi qui dit ça a un côté révolutionnaire et qui dit aussi... ce que je retrouve, je ne sais plus. Il y a un affaiblissement des syndicats, il y a des collectifs. C'est abominable, les collectifs. C'est la révolution pure, le collectif. C'est la révolution dans la révolution. Mmh. Voilà, donc on a bientôt une France des soviets, donc on a intérêt à quitter le pays, en fait.
Anaïs Engel, je voudrais peut-être finir là-dessus. On l'a vu, votre parole, elle a du mal à émerger. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, les économistes, qui sont plutôt de votre courant de pensée, s'organisent ou essayent de s'organiser pour, je ne sais pas, faire émerger des plateformes d'expression ou en tout cas s'accaparer plus de temps de parole sur les grands médias. Ou est-ce que c'est compliqué parce que finalement c'est très disparate et vous n'êtes pas un mouvement
On est quand même assez, on est plus organisé peut-être, je ne sais pas si c'est plus qu'avant, mais en tout cas on essaie de s'organiser avec notamment des économistes atterrés, avec d'autres, avec des médias un peu alternatifs qui ont émergé ces dernières années, notamment sur YouTube. C'est vrai que dans les grands médias traditionnels, là par exemple, tout à l'heure on voyait Jean-Marc Daniel sur France Inter, et ce jour-là en fait il était face à Thomas Porcher, qui est donc économiste atterré également, qui est assez médiatique lui aussi, et quand on regarde perdait un peu le temps de parole, en fait, Thomas Porcher avait parlé quelque chose comme 11 minutes, quand Jean-Marc Daniel s'arrogeait 20 minutes de temps de parole. Donc, même quand on est invité, on est rarement invité seul. Donc, on a rarement la place de s'exprimer. Et puis là, comme on le voit un peu avec les sujets que vous avez montrés, quoi, en gros, tous les sujets qui parlent de « alors, est-ce qu'on va se mobiliser ou pas ben, », ça empêche de parler du fond. Donc, ça empêche de dire « bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme, en fait ?» Et quelque part, j'ai envie de dire enfin, juste que je suis assez admirative de tous ces éditorialistes de droite, parce que pour défendre cette réforme, il faut quand même y aller. Enfin, c'est quand même très compliqué à défendre. C'est quand même vraiment une réforme extrêmement brutale qui va... concrètement, on va demander aux gens de travailler 2 ans de plus. Enfin, on leur prend 2 ans de plus de vie. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde à convaincre, peut-être sur arrêt, sur image. Du moins, si vous n'êtes pas convaincu, n'hésitez pas à me contacter pour que... Je vous donne d'autres arguments, mais en tout cas, c'est quand même une prouesse assez incroyable. Donc j'imagine que ce genre de sujet est aussi une manière de faire diversion, de parler d'autre chose, de parler de la violence des manifestants, au lieu de parler de la violence, en l'occurrence, du gouvernement, qui est une réforme extrêmement, extrêmement violente, quoi.
Je me permets d'intervenir une dernière fois, mais parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé de CNews.
C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de CNews.
Oui, non, parce que c'est une nouveauté aussi par rapport à la dernière réforme des retraites. Et on peut dire que de ce côté-là, ça s'est bien radicalisé aussi. Et par exemple, on a eu une interview exclusive de Zemmour pour dire que en fait, le gouvernement lui avait piqué son projet de réforme des retraites. Et puis, on a des éditorialistes comme Dimitri Pavlenko, justement, à propos du minimum de retraite à 1200 euros, dont on a parlé tout à l'heure, qui explique que vous faites venir votre papy en France, il n'a jamais travaillé en France, il peut toucher la même chose que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie en France. C'est une injustice, c'est totalement anormal. Donc, en gros, on se prépare à une invasion migratoire de vieillards.
Je conclurai juste en disant qu'en effet, on n'a pas parlé de CNews aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup et que des fois, ça fait du bien de ne pas parler de CNews. Oui, Pauline Pernaud, vous vouliez intervenir une dernière fois.
Qui a une ligne économique, on retrouve les mêmes, hein, notamment Agnès Verdier-Moulinier qui a un micro ouvert, qui est aussi sur Valeurs Actuelles, donc ce sont des gens qui se font très bien dans ce paysage. Non, juste peut-être redire que ce qu'on critique beaucoup et que là on voit beaucoup partant de contre-réformes et de mobilisation, c'est que tous ces plateaux qu'on voit, etc., ça prend la place d'un autre mode de traitement de l'information, donc du reportage, plutôt que de gloser là, sur qu'est-ce qui va se passer, de pronostics, etc. On pourrait tout à fait imaginer que les rédactions aillent sur le terrain auprès des travailleurs, voir comment se construit une grève, par exemple. On n'a pas d'image de ça, on n'a pas de reportage là-dessus, on n'a pas d'enquête sociale, c'est réduit à peau de chagrin. Et donc dire que ce qui est pernicieux dans la manière dont est traitée l'information aujourd'hui, c'est ça, c'est l'éditorialisation croissante et le fait que quel que soit le format, en fait, que ce soit à travers des interviews matinales, que ce soit à travers des pseudo-débats qui n'en sont pas, que ce soit à travers donc des plateaux, notamment de chaînes d'information en continu, que ce soit des magazines d'actualité politique, etc., il y a un mode de traitement tendanciellement uniforme, service public, service privé confondu, qui laisse une part énorme à l'éditorialisation, captée par des éditorialistes interchangeables, des gradé de l'information et c'est ça qui fait que du coup on entend j'allais dire cette petite musique mais c'est pas petite parce que c'est particulièrement bruyant voilà mais que en gros c'est ça la misère de l'information aujourd'hui en tout cas une partie de la misère c'est ça c'est la confiscation en fait de l'information par l'éditorialisation et qui piétine le pluralisme quoi.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir regardé. On se retrouve très vite sur Arrêt sur Image.